Le sexe, ce n'est pas parce qu'on en parle qu'on le fait. Contrairement à ce qui se pense et se dit trop souvent, les études prouvent que les jeunes qui ont bénéficié d'une éducation sexuelle ne sont pas plus actifs sexuellement. En revanche, ces jeunes sont, par exemple, plus à même d'éviter la violence sexuelle et d'utiliser des moyens de protection contre le VIH-SIDA ou les grossesses non désirées. Parmi les méthodes et moyens d'information qui semblent les plus efficaces, l'école est particulièrement bien placée. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre émission. Ensemble, faisons entendre la voix des jeunes. Notre thème du jour porte sur l'éducation sexuelle à l'école. Merci à nos invités d'être là. Avant de poursuivre, je vais demander à tout un chacun de se présenter. Je vais commencer par ma droite, monsieur.
Bonjour, je m'appelle Manson Mbaye. Je suis jeune étudiant. Je fais partie aussi d'un mouvement de jeunes qui est le mouvement d'action des jeunes de l'ASBF.
Merci Mansour d'avoir répondu à notre invitation. Madame.
Bonjour, moi c'est Djortiane Diop, Madame Niaye. Je suis directrice du Fonds national des éclaireuses et éclaireurs du Sénégal. Je suis en même temps membre de cette association.
Merci Madame.
Bonjour Monsieur, moi je m'appelle Khadijata, je suis mère de famille. Bonjour à tous nos auditeurs également. Merci.
Merci Madame Khadijata. Comme dans toutes nos émissions, nous ne nous limitons pas à poser des questions. Nous partageons aussi des histoires vécues par des jeunes. Chers auditeurs, je vous propose de l'écouter.
Bonjour Madame, puis-je parler à Madame Niaye, l'enseignante de ma fille Fatou?
Oui Madame, c'est moi. Puis-je être utile?
Qu'avez-vous appris à ma fille?
Pardon, est-ce que je peux savoir la raison de cette question?
En fait, hier, j'avais une petite dispute avec mon mari et lui, il a un sacré tempérament. Il s'énerve vite et ne se contrôle pas devant les enfants quand il est en colère. Alors, quand il s'est mis à crier fort et à m'insulter, ma fille est intervenue et lui a dit « Papa, n'insulte pas maman, ça c'est de la violence. » Et là, mon mari est resté bouche bée et était gêné de la réaction de la petite. C'est la raison pour laquelle je suis venue pour voir si c'est vous qui l'avez appris ça.
Ah oui, je vois. Vous savez, si je n'ai pas répondu à votre question, c'est tout simplement parce que j'avais peur. En fait, beaucoup de parents viennent nous attaquer pour la simple et bonne raison qu'on parle d'éducation sexuelle à l'école. En réalité, ces deux derniers jours, une ONG a envoyé des pédéducateurs dans notre établissement dans le seul but de dispenser des cours d'éducation sexuelle aux enfants, aux adolescents, mais aussi aux enseignants. On y apprend beaucoup de choses comme l'hygiène de vie, les valeurs, les droits et devoirs, la notion de genre, les relations interpersonnelles et plein d'autres choses encore. Mais avec les enfants, ils leur parlent beaucoup des types de violences qui existent pour les permettre de prévenir ces violences, mais aussi leur demander de ne pas en commettre quand ils sont ensemble.
Ah bon? En tout cas, elle a bien compris la leçon, car elle m'a sauvé des insultes et des mots amers de mon mari. Et nous, parents, est-ce qu'on peut bénéficier de ces cours? Car moi, j'ai une fois entendu parler d'éducation sexuelle. Mais la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était que ces gens veulent pervertir nos enfants. Je pense que ces formations peuvent nous servir.
Je suis bien contente pour vous, madame. Et par rapport à votre question, soyez rassurés. Les parents d'élèves seront impliqués dans les autres séances de formation à venir. Car comme vous, beaucoup de personnes pensent à l'acte sexuel quand elles entendent parler d'éducation sexuelle. Or, il leur donne des informations de qualité pour des prises de décisions saines et responsables concernant leur sexualité. Vous savez, madame, l'ONG prône le bien-être des enfants et ainsi toutes les personnes qui seront en contact avec ces enfants seront formées.
Voilà, madame Niaye, vous me soulagez beaucoup. Merci beaucoup pour les éclaircissements.
De rien, madame, ce fut un plaisir et bonne journée.
Mieux comprendre ce qui se passe dans son corps quand on grandit. Savoir que garçons et filles, hommes et femmes, nous avons des droits et notre corps est protégé par des lois. Apprendre qu'on peut éviter les maladies sexuellement transmissibles ou les grossesses non désirées. L'éducation sexuelle peut apporter beaucoup aux élèves. Mais qu'en pensent les citoyens et citoyennes? Suivons notre micro-trottoir du jour. Selon vous, que peut apporter l'éducation sexuelle à l'école?
Bon, je crois que ça peut apporter beaucoup de choses à l'enfant. Parce que, bon, le seul problème qui se pose est que dès qu'on parle d'éducation sexuelle, bon, les mauvais esprits vont croire qu'il s'agit d'autre chose et qu'il ne s'agit que de la connaissance du corps de l'enfant. Et moi, je crois que l'enfant a le droit de connaître son corps. Parce qu'à un certain moment, dès l'âge de 12 à 13 ans ou bien même 14 ans, il y a des transformations au niveau de son corps et ça peut même être une surprise pour l'enfant, bon, si l'enfant n'est pas averti à temps. Le fait que l'enfant soit averti à temps sur ses transformations au niveau de son corps, moi je crois que ça peut l'aider beaucoup à mieux entretenir son corps.
L'éducation sexuelle à l'école peut apporter beaucoup de choses à l'enfant. Par exemple, l'éducation sexuelle à l'école permet à l'enfant de sensibiliser, de connaître des choses à temps avant qu'il puisse faire des erreurs dans l'avenir. En troisième et en quatrième, on avait dans nos programmes des leçons qui comportaient sur ce sujet. Par exemple, en matière d'économie familiale, on nous apprenait comment agir quand on voit nos règles et ce qui touche avec dans ce domaine.
Actuellement, les parents n'ont pas assez de temps à la maison, ne passent pas beaucoup de temps avec les enfants à la maison. L'information nécessaire que les enfants devaient disposer, c'est l'école qui leur vient en appoint pour informer les enfants, pour les sensibiliser, pour les faire connaître les mutations, les changements physiologiques et physionomiques que subit leur corps et pour une meilleure insertion, pour une meilleure préparation de l'enfant pour la vie d'adulte.
Avant de recueillir vos réactions, j'aimerais vous donner quelques informations sur ce thème. L'éducation sexuelle, l'éducation à la vie familiale ou encore l'éducation à la santé de la reproduction en milieu scolaire, quel que soit le nom qu'on utilise pour la désigner, permet d'avoir un véritable impact sur la santé et le bien-être des jeunes. Elle permet de proposer des informations précises, exactes, non moralisatrices et adaptées à chaque tranche d'âge, afin de promouvoir des comportements informés et responsables en matière de sexualité et de la vie procréatrice. L'éducation à la sexualité est difficile à mettre en place au sein des établissements scolaires. Des cours d'éducation en matière de population et d'éducation à la vie familiale sont cependant initiés dès l'école primaire, mais tous les enseignants ne sont pas prêts à enseigner ce type de sujet et l'enseignement se fait de manière incomplète et sporadique. Le plan d'action PF 2014-2018 prévoit l'introduction de l'enseignement de la santé sexuelle et reproductive dans les écoles à travers l'élaboration d'un module santé sexuelle et reproductive, la formation des enseignants et la création de supports pédagogiques en continu d'ici 2018. C'est donc une priorité du gouvernement du Sénégal. Chers invités, je vous propose maintenant de réagir à ce micro-trottoir et d'échanger avec nous. Mansour, je vais commencer par vous. En tant que jeune, vous a-t-on déjà parlé de sujets liés à la vie familiale ou à la sexualité à l'école?
Personnellement, quand j'étais au collège, on m'a déjà parlé de ce sujet lors de nos cours d'économie familiale. On en a parlé, mais on n'avait pas toutes les informations dont on avait besoin. On nous parlait de manière vraiment brève. On brossait seulement les informations. On n'entrait pas dans les contenus. Maintenant, en tant que jeune, en tant qu'adolescent, on s'adonnait parfois à des choses qui pouvaient nous entraîner, qui nous pouvaient nous causer des conséquences qui après seraient néfastes pour nous. Direct par la grâce de Dieu, on n'a pas eu cette malchance-là. On a été formé et engagé dans des mouvements qui après nous ont appris pas mal de choses concernant l'éducation sexuelle. C'est là en fait que j'ai eu réellement toutes les notions de l'éducation sexuelle. Comme l'a relaté tout à l'heure l'histoire, l'histoire nous montre que l'éducation sexuelle ne parle pas seulement de la sexualité, mais en fait c'est vraiment quelque chose de large. La jeune fille nous parle de la violence et là on voit que les jeunes s'impliquent carrément dans ce dans ces thèmes-là. Et comme aujourd'hui, actuellement, on a un fléau qui est en train de courir, c'est-à-dire dans les publications des réseaux sociaux. Et dans, on voit presque chaque jour ou chaque semaine des publications qui montrent des jeunes filles qui sont en train de faire des rapports avec leurs copains et autres. Et dans ces modules-là, on nous parle des valeurs. Et qui dit valeur dit honneur, qui dit valeur dit respect, qui dit valeur la manière dont on doit se comporter en tant que jeune. Et c'est, ça, je crois que ça pourra nous permettre en tant que jeune de savoir qu'est-ce qu'on doit faire ou ne pas faire.
Voilà. Maintenant, Mansour, vous parlez de l'école, vous parlez aussi des informations que vous avez reçues à l'école liées à l'éducation sexuelle. Maintenant, on sait que la première école de l'enfant, c'est la maison. Vous arrive-t-il souvent que vos parents abordent ces sujets avec vous au niveau de la maison?
Je vis avec ma mère et sincèrement, ma mère n'a jamais, j'ai bien dit, jamais parlé de l'éducation sexuelle avec moi. Elle ne m'a jamais parlé de ça. Toutes les informations que j'avais eues avant l'école, je les avais reçues de la rue avec des copains, parfois, ou peut-être avec des adultes. Il y avait un homme comme moi qui, quand j'avais 10, 11 ans, m'avait appelé Mansour Kay, Mansour vient. Et quand je suis venu, il m'a demandé d'aller lui acheter un préservatif. Avant, je ne connaissais pas ce que c'était le préservatif. Et il m'a envoyé à la pharmacie, je suis allé lui acheter. Et c'est en cours de route que j'ai ouvert la boîte pour un peu regarder ce que c'était le préservatif. Et voilà quoi. Après, quand je suis entré dans le mouvement, à part de là-bas que j'ai connu l'intérêt du préservatif.
Voilà, Mansour, merci. Hein. Donc, Khadi, Madame Diatta, en entendant parler Mansour, il a parlé ce refus des parents d'aborder ce sujet avec leurs enfants. Pourquoi, selon vous, certains parents ne veulent pas qu'on enseigne l'éducation sexuelle ou d'aborder le sujet lié à l'éducation sexuelle avec leurs enfants à la maison?
Vous savez, nous sommes dans une société sénégalaise où ces questions liées à la sexualité sont parfois un peu taboues. C'est la raison pour laquelle parfois on parle, nous les parents, plutôt on parle d'interdit plutôt que d'éducation sexuelle carrément proprement dite. Moi, en tant que parent, en tant que mère de famille, je parle souvent à mes enfants, mais plutôt pour les prévenir de certains dangers. Je parle à mes enfants également pour les responsabiliser, pour qu'ils puissent éviter certaines maladies qui sont un peu liées à la sexualité irresponsable. Sexualité qui peut vraiment mener aux grossesses précoces, aux grossesses non désirées, qui peuvent également entraîner de sérieuses conséquences tant sur le plan économique comme sur le plan social. Voilà, donc je discute beaucoup plus avec eux, donc surtout pour les préparer à la puberté, à toutes les transformations qui sont liées à cette période-là de puberté. Donc, les rappeler également certaines valeurs, comme pour partager la même idée avec Mansour. Donc, je discute beaucoup plus avec eux pour vraiment les rappeler certaines valeurs qui sont culturelles, certaines valeurs, donc pour qu'ils puissent vraiment être des personnes qui sont imbues de valeurs et éviter certaines tendances.
Voilà, merci Khadi. Madame Diaye, j'en viens à vous en tant que personne ressource. Aujourd'hui, si on fait un état des lieux, on se rend compte que certains enseignants refusent de parler d'éducation sexuelle avec leurs élèves. Selon vous, pourquoi les professeurs ou enseignants refusent-ils de parler de sexualité alors que c'est leur devoir d'informer les enfants pour ce qui est de l'anatomie et de la reproduction?
La sexualité est vraiment une partie prenante de la vie de l'individu, depuis la naissance jusqu'au décès, en passant par la puberté, étape du mariage, entre autres. Et qui dit sexualité, éducation sexuelle, parfois dit aussi école. Parce que dans nos sociétés culturelles, les parents ont souvent du mal à discuter avec leurs enfants de ces questions-là, en disant parfois même que le mot sexe est un mot sale. Alors que notre religion, l'islam, nous a enseigné que même du temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des questions liées à la sexualité lui étaient posées par les femmes et les hommes pour pouvoir savoir comment se comporter dans de telles situations dans leur vie conjugale. Seulement dans l'école et par rapport à la société, c'est beaucoup plus les aspects biologiques qui sont mis en avant. Les aspects scientifiques, on apprend aux enfants, aux jeunes, l'appareil génital, c'est quoi la reproduction, comment se préserver contre certaines maladies, entre autres. Et l'enseignant s'en arrête à là, c'est juste les aspects biologiques, mais ne va pas jusqu'aux questions de valeur, jusqu'aux questions culturelles, parce que parfois aussi, nous sommes dans une société laïque, où on a un enfant chrétien dans l'école, un enfant musulman, un enfant animiste peut-être. Donc, on n'a pas les mêmes valeurs culturelles selon la religion. L'enseignant peut être mal à l'aise d'apprendre à un enfant telle valeur par rapport à telle pratique sexuelle, par rapport à son cours carrément biologique qui lui dit que c'est juste ça, l'appareil, par exemple, génital, s'il apprend l'appareil génital. Et on se rend compte aussi que c'est beaucoup plus la prévention liée à l'utilisation du préservatif, aux conséquences des grossesses non désirées, que l'abstinence qui est préconisée. Alors que dans nos religions, par exemple, on dit que c'est l'abstinence qui est de règle. Mais l'enseignant, par rapport au curriculum de formation, ne peut pas prendre ce rôle-là de dire que non, vous devez vous abstiner. Il a le rôle de prévention pour dire voilà, tous les cas qui peuvent se présenter à vous, et si tel cas se présente, comment vous devez vous comporter. Et c'est là que un peu parfois le bât blesse entre comment se doit se comporter l'enfant et quels, c'est juste des apprentissages théoriques que l'enseignant fournit à l'élève, mais pas les comportements à faire. Et ça, je crois que c'est aux parents de le faire.
Voilà, vous avez parlé de laïcité. Est-ce qu'aujourd'hui la laïcité devait être un obstacle pour enseigner l'éducation sexuelle à l'école?
À mon avis, hein, l'éducation sexuelle à l'école est juste un complément de l'éducation sexuelle à la maison. Ça devrait se faire à la maison. La limite, c'est que tous les parents ne sont forcément pas éduqués sexuellement ou ne savent même pas comment parler à leurs enfants. Si un parent n'est pas éduqué, ne sait pas comment parler à son enfant, ça pose problème. Si vous venez à la maison et que vous parlez de le parent, par exemple, l'enfant dit « Maman, je veux un petit frère ou une petite sœur », le parent a tendance à dire « Oui, oui, on va aller le trouver à l'hôpital ou le chercher, l'acheter ». Mais si l'enfant a appris que, par exemple, c'est par les rapports sexuels que naît un enfant, ça pose problème. Il y a un problème cognitif qui est posé à l'enfant. Comment se peut-il que le maître me dise ça et que mon père ou ma mère me dise ça? Et en général, les limites sur le plan de la sexualité, c'est dans la chambre conjugale que ça se passe. Et nos sociétés, sur le plan culturel, ne permettent pas à l'enfant d'accéder à ce stade-là, tant qu'il, ou même aux jeunes, tant qu'il n'est pas marié. Donc ça, c'est des freins par rapport à la religion. Ça n'a rien à voir avec la laïcité. Parce que quand un cours d'éducation sexuelle en classe, pour des élèves de religions différentes, un maître même qui n'a forcément pas les mêmes valeurs culturelles que l'enfant, il ne peut s'arrêter que sur les questions scientifiques et biologiques.
Voilà. Mansour,
je voulais juste rebondir par rapport à la question, dire que la laïcité ne cause pas du tout de problème. Par expérience, on a eu des formations où on a animé des formations avec des jeunes chrétiens musulmans. Et on leur dit que quand on parle de valeurs, il y a pas mal de valeurs au Sénégal. Ici, on parle de Sénégal, mais on n'a pas les mêmes valeurs. Même à Dakar, je dirais à Dakar, mais on n'a pas les mêmes valeurs. Maintenant, on leur demande d'abord de respecter les valeurs de chacun. On leur demande de respecter les valeurs de chacun. Maintenant, il y a dans certaines régions où les femmes qui ont déjà eu un enfant hors mariage sont plus sont plus aptes à se marier que celles qui s'abstiennent. C'est ça, sont des problèmes culturels. On leur demande on respecte ces valeurs-là, mais on leur dit par contre les conséquences qui sont derrière ces valeurs. Comme on dit, il y a des valeurs négatives et positives. On parle des valeurs positives. Il y a des valeurs universelles comme respecter l'individu et tout, mais aussi il y a des valeurs qui sont au Sénégal ou en Afrique et qui sont négatives. Et pour ces valeurs-là, on les respecte, mais on ne s'en limite pas là. On leur dit les conséquences qu'il y a derrière ces valeurs-là. Maintenant, c'est à eux maintenant de savoir qu'on n'est pas là pour discriminer ou marginaliser les gens. On leur dit seulement que ça, on le fait, mais après, il y a des conséquences qui sont derrière qui peuvent être néfastes pour l'enfant ou le jeune. Et concernant les parents, beaucoup de parents n'ont pas d'éducation sexuelle et ne connaissent pas réellement ce que c'est l'éducation sexuelle. Et du coup, ils ne peuvent pas parler d'éducation sexuelle aux enfants. Les enseignants aussi, il y en a certains qui sont éduqués sexuellement, il y a certains qui ont eu des formations, mais il y a un tas d'enseignants qui ne connaissent pas l'éducation sexuelle. Et ça, c'est un réel problème. Ils sont tout le temps en contact avec les jeunes, presque 9 mois, ou je dirais même plus, avec les enfants et les jeunes. Et quand ils n'ont pas les informations nécessaires pour conseiller les jeunes, c'est un réel problème qui se pose. Aujourd'hui, imaginons une jeune fille qui n'a pas été préparée par rapport au cycle menstruel et une fois à l'école, voit du sang qui sort de ses parties intimes. Et qui va l'aider si les enseignants ne sont pas préparés à ça? C'est un problème qui se pose. Il faut que tous les gens qui sont en contact avec les enfants et les jeunes, que ce soit le parent, les enseignants et même les éducateurs, il faut qu'ils soient tous formés et qu'ils soient en mesure de donner des informations nécessaires pour que l'enfant soit à l'aise et la santé qu'il devrait avoir.
Voilà, toujours j'en reviens à Madame Diaye. Hein. Donc c'est par rapport surtout à l'éducation sexuelle à l'école. Hein. Doit-elle être adaptée à l'âge de l'enfant? Par exemple, la manière dont on enseigne l'éducation sexuelle à l'école primaire et la manière dont on enseigne l'éducation sexuelle à l'école secondaire.
Bien évidemment, déjà, l'Organisation mondiale de la santé dit que c'est à partir de 10 ans, 12 ans, qu'il faut déjà commencer l'éducation sexuelle. Mais déjà, il y a un enseignant qui disait à un parent d'élève, « Moi, par exemple, je n'ai pas la prétention d'apprendre à votre enfant de lui dire quand vous devez commencer l'expérience sexuelle ou ne pas le faire. Je lui dis juste, si vous le faites, telles sont les conséquences. » Et comment s'en prévenir. Maintenant, le parent qui est musulman ou le parent qui est chrétien et que sa religion lui dit que l'enfant doit être, le jeune doit être chaste jusqu'au mariage. Mais c'est le rôle du parent d'aller vers ces valeurs-là. Maintenant, vous connaissez bien quelles sont les conséquences et tout, mais vous devez être chaste jusqu'au mariage et essayer de promouvoir ces valeurs-là. L'école s'arrête juste à donner les bonnes informations. Maintenant, l'âge, effectivement, est très très important parce que déjà à 12 ans, le jeune a des transformations pubertaires. Et ce que les organisations de la société civile, les ONG, les associations sont en train de faire avec la formation par les pairs, avec les focus groups, les réunions, les discussions et échanges entre les jeunes, c'est des moments de dialogue très très importants parce que l'enfant peut être mieux et parfois mieux à l'aise avec un père pour discuter de certaines questions qu'avec un adulte qui lui donne juste des connaissances théoriques sur un domaine que l'enfant parfois a honte de poser des questions ou ne maîtrise même pas les aspects techniques des réponses ou des questions que l'enseignant lui donne. Donc c'est vraiment très très important de prendre en compte le développement de l'enfant par rapport à son âge, à son milieu et sa culture, sa religion aussi.
Voilà. Selon vous, Madame Diatta, que peut apporter l'éducation sexuelle à l'école?
Moi, je pense que si dans le programme, il y avait des modules qui sont liés à la santé de la sexualité, donc ça pourrait peut-être permettre aux jeunes d'avoir d'abord des informations qui sont réelles, des informations qui sont fiables. Ça pourrait également aider les jeunes à pouvoir peut-être créer des cadres d'échange entre eux. Donc, ça pourrait aussi, pour moi, en tout cas, créer ou aider, participer à la promotion des clubs comme les clubs EVF, Alors donc ça pourrait peut-être beaucoup plus accompagner ces groupes-là, donc avoir, même s'il le faut, inclure d'autres types d'activités dans leur programme, à savoir faire des projections de films au sein des écoles, donc des projections qui pourront vraiment participer à la sensibilisation de manière efficace. Donc pour moi, il est grand temps quand même d'inclure dans le programme, je dirais, des modules qui sont carrément liés à la santé de la reproduction.
Mansour, je reviens vers vous en tant que jeune. Que pensez-vous que l'éducation sexuelle peut vous apporter?
D'abord, des informations. Comme on dit, si on est bien informé, on pourra éviter de se mettre dans des situations qui nous entraînent à causer des conséquences néfastes. Il serait bien qu'on ait des informations fiables, qui sont de qualité, et ne pas s'arrêter à des rumeurs qui circulent dans la rue. Souvent, il y a pas mal de jeunes qui ont eu des informations à travers une amie ou un copain, et après ces informations-là, les causent de sérieux problèmes. Il faudrait d'abord connaître de bonnes informations qui nous permettaient de prendre des décisions saines et responsables. Et maintenant, ça pourrait aussi nous amener, quand on sera adulte, d'avoir une vie sexuelle qui serait bon, qui va avoir engendré des problèmes après. Voilà.
Madame Diaye, tout à l'heure, donc en parlant des professeurs, on s'est rendu compte qu'il y a des profs ou des enseignants qui refusent de parler d'éducation sexuelle à l'école. Est-ce que les enseignants sont aujourd'hui bien outillés pour aborder les questions relatives à la sexualité avec leurs élèves?
Il est en ce moment mondialement reconnu que l'éducation sexuelle est une composante essentielle de la construction de la personnalité humaine. Seulement, dans nos pays africains, il y a beaucoup de problèmes liés surtout au plan culturel, parce que nos religions nous disent que il faut apprendre. Ça, c'est la base de toute religion, que les gens doivent apprendre, doivent connaître pour pouvoir mieux vivre en société. Tout récemment, je crois que c'est en 2015, un atelier a été mené avec l'aide de l'UNFIA pour revoir les curricula en matière d'éducation sexuelle, parce qu'on a l'éducation à l'économie familiale, l'éducation à la vie sexuelle, vivre ensemble, SVT, sciences à la vie et à la terre. Donc, selon le niveau de chaque des enfants, des élèves du primaire au secondaire, il y a beaucoup de cours qui sont dispensés et liés à l'éducation sexuelle, mais ce n'est pas un cours homogène. Donc, les curricula ont été revus dans ce sens-là pour voir comment harmoniser tout ça et même amener les enseignants à être mieux à l'aise en pouvant dispenser ces cours. Seulement, on leur donne, comme je disais, le contenu du cours, mais pas la pédagogie. C'est ça, à chaque enseignant de voir avec quelle pédagogie dispenser le cours. Il y a des enseignants qui font juste un cours théorique où ils viennent juste donner l'information et y aller. D'autres qui ont eu la chance peut-être d'être dans des associations font un cours beaucoup plus interactif, où c'est des échanges, c'est des discussions, entre autres. D'autres vous feront des présentations PowerPoint, ou même vous feront regarder un film ou lire un magazine, et après c'est des discussions. Donc c'est la pédagogie qu'il faut peut-être harmoniser. Et malheureusement, la pédagogie n'est pas enseignée pour dérouler un cours. C'est chaque enseignant qui voit, selon sa façon de faire, comment enseigner ce cours-là. Mais au moins, on a des curricula qui sont vraiment homogènes par rapport au contenu à transmettre aux élèves.
Selon vous, Madame Diatta, comment pourrait-on rassurer les parents et éviter qu'ils ne s'opposent à l'éducation sexuelle à l'école?
Il est justement temps que les parents se rendent compte de l'importance qu'il y a à parler de sexualité. Je pense que vraiment, si on pousse les parents à pouvoir se rendre compte vraiment qu'il y a beaucoup de difficultés que nous rencontrons, là, ils pourront accepter l'éducation sexuelle dans les écoles. Il y a beaucoup de problèmes que nous rencontrons. Il y a les problèmes autour des pédophilies, il y a les problèmes autour de l'infanticide. Si les parents se rendent compte qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont liés à ces actes, là, ces problèmes-là doivent les pousser à dire qu'il est temps, qu'il faut en parler. Il est temps de briser donc cette glace, créer une rupture carrément, parce que quand même, ce n'est pas en parlant de sexualité qu'on devient forcément mauvais, mais c'est en parlant qu'on peut prévenir à certaines choses.
Voilà, Mansour, selon vous, comment pourront-on rassurer les parents et éviter qu'ils ne s'opposent à l'éducation sexuelle à l'école?
Je pense qu'il est important de faire une bonne communication par rapport à la santé sexuelle et reproductive au niveau des écoles. Déjà, amener les parents à bien comprendre, savoir déjà et comprendre le contenu, parce que dans les curriculums, on parle d'hygiène de vie, on parle de genre, de valeurs, de droits et devoirs, de violence, de relations interpersonnelles. Il y a pas mal de choses qui pourront nous amener, nous jeunes, à avoir une vie saine, à savoir comment se comporter en société, qu'est-ce qu'il faut éviter, qu'est-ce qu'il faut ne pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a vraiment un ensemble qui est dans ce curriculum. Maintenant, il faudrait que les parents sachent le contenu. Il faut qu'ils s'approprient le curriculum, qu'ils l'étudient, qu'ils comprennent ce qu'il y a là-dedans. Et ainsi, je pense qu'ils sauront de quoi les enseignants et les éducateurs, les sages-femmes vont parler aux enfants. Seulement, le problème qui se pose quand on parle de sexualité, c'est un mot qui dérange. C'est la raison pour laquelle on a changé le nom. Avant, on parlait d'éducation sexuelle intégrée. Maintenant, on parle d'éducation à la santé reproductive. Parce qu'il y a le mot sexuel qui dérange. Maintenant, il faut les amener à savoir qu'on ne parle pas exclusivement de sexualité, qu'on ne va pas dire aux enfants aller avoir des rapports sexuels, mais on les amène à savoir les conséquences d'avoir des rapports sexuels précoces, les conséquences des IST, des VIH et tout. Maintenant, je pense que si les parents sachent ce qui est dans le curriculum, ils pourront eux-mêmes porter ce plaidoyer et que d'ici l'horizon 2018, que le curriculum soit fonctionné au niveau des écoles.
Merci, chers invités, pour ce débat. Pour rappel, vous suivez toujours votre émission Ensemble, faisons entendre la voix des jeunes, et notre thème du jour porte sur l'éducation sexuelle à l'école. Après ce débat avec nos invités, je vous propose d'écouter l'avis de notre spécialiste, rubrique éclairage d'un spécialiste. Nous sommes aujourd'hui avec M. Madame Bendouille, coordinateur de projet au GEP, groupe d'études pour l'enseignement de la population.
Nous sommes avec Madame Bendouille. Monsieur, l'éducation à la vie familiale ou l'éducation à la vie sexuelle à l'école est-elle vraiment nécessaire aujourd'hui et pourquoi?
Je crois que la nécessité de cette éducation à la vie familiale ne fait l'ombre d'aucun doute aujourd'hui. Parce que cette éducation était prise en charge par la société à l'époque. Pour la jeune fille, c'est la badienne qui prenait en charge cette éducation. Dès que la jeune fille atteignait l'âge pubère, sa mère l'envoyait pendant les vacances auprès de sa badienne qui l'éduquait au plan sexuel, lui donnait tous les éléments d'information, d'hygiène, de sexualité et tout. Chez les hommes, c'est dès qu'ils étaient au même âge, ils étaient envoyés dans les leul. Vous savez que la fonction du leul était d'éduquer sexuellement aussi le jeune garçon à qui on apprenait à respecter la jeune fille. Aujourd'hui, c'est différent. Faits sociaux ne sont plus d'actualité. Le leul tel qu'il était conçu à l'époque ne se fait plus. Alors, il faut qu'il y ait une alternative à cette éducation, une alternative à ces sources d'informations. Vous me dites pourquoi, vous me demandez pourquoi. Pourquoi une nécessité? Parce que la fille à l'âge pubère a soif d'informations. La fille à l'âge pubère, à l'adolescente, est confrontée à plusieurs situations qu'elle doit traverser. Et qui, si elle n'est pas prise en charge, si elle n'est pas bien informée, si elle n'est pas bien préparée, peut la mener à bien des fléaux. Que sont ces infections sexuellement transmissibles par rapport au sida? Que sont ces grossesses précoces ou même ces mariages précoces? Cela veut dire donc qu'il y a une nécessité aujourd'hui, n'est-ce pas, d'éduquer sexuellement les enfants, de leur donner une éducation sexuelle.
Maintenant, de façon concrète, qu'est-ce que l'État a fait dans ce cadre pour l'intégration de cette thématique à l'école?
Il faut dire que il y a des disciplines d'accueil au niveau de l'école, que sont l'éducation éducation familiale et sociale, que sont les SVT et même la géographie. Pour l'éducation familiale et sociale, à partir de la quatrième qui correspond à l'âge d'adolescence, il y a des leçons, des modules qui sont introduits par l'école pour pouvoir, n'est-ce pas, donner le minimum d'informations sur sa sexualité, sur son hygiène corporelle, etc. En SVT, à part de la quatrième, de la seconde jusqu'à la première, il y a la biologie qui prend en charge aussi ces questions, qui au-delà de parler du corps de l'enfant, lui enseigne, n'est-ce pas, le fonctionnement de tous ses organes sexuels et en profite pour pouvoir leur donner des moyens de prévention, système de prévention. Et maintenant, pour ce qui est de la géographie, le chapitre population de la première prend en charge des questions de maladies comme le VIH-Sida. Et c'est des prétextes pour les enseignants, n'est-ce pas, pour pouvoir, n'est-ce pas, parler de cette éducation sexuelle, pour leur donner les informations en guise de prévention. Maintenant, aujourd'hui, depuis quelque temps, il y a une coalition des organisations de la société civile qui a été mise en place et qui travaillait sous le leadership de l'ASPEF, il faut le dire, avec le RAES, le GEP et d'autres organisations qui ont fait un grand plaidoyer pour l'introduction de l'éducation à la vie familiale dans les curricula de formation pour que l'éducation soit institutionnalisée dans les écoles de formation. Mieux, le GEP a initié ce qu'on appelle un projet de renouveau des curricula. Parce qu'aujourd'hui, les curricula dans lesquels sont enseignés les enfants datent de la coloniale. Il faut donc renouveler tous les curricula des disciplines. Les modules sont là et à partir peut-être de 2018, octobre 2018 ou plus tard octobre 2019, toutes les écoles de formation, que ce soit les écoles de formation des instituteurs, que ce soit la FACEF, tous les sortants seront préparés à l'éducation à la sexualité. Je ne dirais pas l'éducation à la sexualité, mais à l'éducation au moins à la santé de la reproduction.
À votre avis, comment pourrait-on rassurer les parents et éviter qu'ils ne s'opposent à l'éducation sexuelle à l'école?
À mon avis, ce qu'il faut faire, que l'école le fasse ou que les organisations de la société civile le fassent, il faudrait une bonne communication vers les parents. Que les contenus qui sont, n'est-ce pas, donnés aux jeunes soient d'abord présentés aux parents. Qu'on puisse inviter les parents à des séances de causerie, à des séances de sessions éducatives comme on le dit chez nous, pour qu'ils puissent savoir ce qu'on est en train de dire à leurs enfants. Ils sauront que c'est le discours qu'ils devaient tenir au foyer, que l'école est en train de tenir à leurs filles ou à leurs garçons pour les préparer à une vie sexuelle meilleure demain quand ils seront grands. Je crois que s'il y a une bonne communication, si on les associe à toutes les stratégies que nous menons, les parents ne pourront pas s'opposer vraiment à cette éducation sexuelle.
Quels sont les progrès et les défis notés dans la mise en œuvre de ce programme?
Des progrès, il y en a, il faut vraiment le dire. Parce que déjà, par rapport aux messages qui sont donnés aujourd'hui aux jeunes, les messages sont contextualisés aujourd'hui. Ce n'est plus comme nous, à l'époque, quand nous commencions, les messages moralisateurs que nous donnions avec l'abstinence, etc., etc., tout cela. Aujourd'hui, on met le jeune devant sa responsabilité en lui donnant le maximum d'informations possibles, en le mettant en face de ses responsabilités, tous les dangers qui les guettent par rapport à une sexualité précoce. Quand le discours est bien présenté, quand le message est très clair, les jeunes qu'on a aujourd'hui sont très sensibles à ça.
Alors, l'éducation sexuelle a-t-elle fait ses preuves? Connaissez-vous des exemples réussis en la matière, dans la sous-région ou ailleurs?
Nous sortons d'une étude, n'est-ce pas, sur les grossesses précoces en milieu scolaire qui s'est faite au Sénégal, au Burundi et en Côte d'Ivoire sous le financement de l'UNFPA. Nous avons remarqué qu'au Burundi et en Côte d'Ivoire, les grossesses précoces font des ravages au niveau des établissements scolaires. Au Sénégal, nous sommes un peu moins atteints, mais il faut dire quand même que le mal est là. Parce que rien qu'en 2013-2014, nous avons constaté 1971 grossesses en milieu scolaire. Alors qu'au Burundi, c'était 4900, en Côte d'Ivoire, 5076. Alors, peut-on dire que l'éducation sexuelle a réussi en Afrique? En tout cas, il n'y a pas encore une étude, n'est-ce pas, qui peut montrer qu'aujourd'hui, par rapport à ce que fait l'école, par rapport à ce que fait la société, l'éducation sexuelle est en train de faire ses preuves dans le cadre de la réduction des grossesses précoces, sur ce thème précis. Cependant, il faut dire que par rapport à la connaissance du corps, que par rapport à la connaissance du VIH-Sida aujourd'hui, remarquez que le Sénégal, aujourd'hui, le taux de VIH est de 0,7. Cela veut dire que la prévention qui est menée aussi, cela veut dire que le discours qui est tenu aux jeunes, cela veut dire que la communication que nous faisons vers ces jeunes a fait qu'aujourd'hui, par rapport aux jeunes, qui est de 0,7 dans la population générale, est descendu très bas et de 0,3 chez les jeunes. Ça veut dire que ne serait-ce que par rapport à cet indicateur, nous pouvons dire aujourd'hui que l'éducation sexuelle est en train de faire des progrès. Autre indicateur, c'est par rapport, n'est-ce pas, à l'utilisation du préservatif aujourd'hui, par rapport au retard des premiers rapports sexuels, par rapport au taux d'infection. Je crois qu'il y a plusieurs indicateurs sur lesquels, si on y regarde de plus près, on se rendra compte qu'effectivement, l'éducation sexuelle est en train de faire ses preuves.
Merci, Monsieur Madem Bandoy. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du GEP, le groupe pour l'étude et l'enseignement pour la population. Merci de nous avoir reçus. À très bientôt.
Mais le plaisir est partagé.
L'éducation à la vie familiale ou l'éducation à la vie sexuelle à l'école est listée par l'Organisation mondiale de la santé comme l'une des interventions à haut impact pour l'information et le changement des comportements en santé sexuelle et reproductive. Plusieurs études sur les programmes d'éducation complète à la sexualité à l'école ont montré que ceux-ci contribuent à réduire le nombre de partenaires, retarder l'âge des débuts sexuels et promouvoir des comportements à moindre risque. Au Sénégal, le gouvernement s'est engagé à mettre en œuvre l'éducation à la santé de la reproduction en milieu scolaire secondaire dès 2010. Il est prévu que les curricula soient révisés en 2017. La société civile et les partenaires techniques organisés en coalition se sont mobilisés pour contribuer au processus de révision de ces derniers et faire des propositions concrètes de contenu adapté. Merci à Monsieur Madame Bandoy pour ses éclairages. Maintenant, nous allons évoquer un blocage à lever dans les années à venir. Madame Diaye, en écoutant en fait ce débat, tu as entendu parler que les parents, en général, Mansour l'a dit, que les parents refusent de parler d'éducation sexuelle à l'école, à la maison. Selon vous, comment pourrait-on rassurer les parents et éviter qu'ils ne s'opposent à l'éducation sexuelle à l'école?
Voilà, merci Issa. C'est juste introduire les principes éthiques. Les valeurs dans cette éducation-là. Pour rassurer les parents, il faudrait qu'ils sachent le contenu de ces cours d'éducation sexuelle-là et la manière dont ces cours sont dispensés aux jeunes. Et que le principe de l'égalité entre jeunes est respecté, que le principe de la laïcité et le respect de la moralité est prise en compte, que des informations correctes, précises sont diffusées aux enfants, qu'il n'y a pas de propagande ou bien d'incitation à l'acte sexuel, et prendre en compte toutes les valeurs culturelles que le parent a, l'enfant a, pour pouvoir rassurer un peu la communauté. Et aussi avoir des cours, même pour ces parents-là, des espaces d'échange, de discussion entre parents, enseignants, autour de ces thèmes-là, pour qu'ils sachent vraiment quel est l'intérêt de ces cours. Parce que même les parents gagneraient à être formés, à être enseignés sur de telles thématiques, pour pouvoir eux aussi jouer pleinement.
Nous arrivons à la fin de notre émission, mais avant de finir, nous allons donner la parole à notre champion pour lancer un message. Chers auditeurs, parole de champion.
Je suis Lamine Diawara, enseignant de profession. Je me suis engagé pour diverses raisons. Cette cause est en fait un sujet qu'on a considéré comme tabou et qui malheureusement fait des dégâts quand on n'est pas préparé. La sexualité est un phénomène naturel qui vient à maturation quand les fonctions sexuelles arrivent à se développer comme il faut, sous l'effet des hormones de ceci ou de cela. Donc, c'est un phénomène naturel. Les parents ne sont pas préparés à aborder ces sujets. Et comme ils passent un grand nombre d'heures par jour à l'école, et c'est un milieu également mixte en général, il est très important de les préparer pour qu'ils sachent les phénomènes physiologiques qui se passent en eux et qu'ils sachent les analyser pour pouvoir apporter les réponses adéquates. La sexualité est naturelle, mais les religions, les communautés, les cultures ont établi des règles de fonctionnement, d'utilisation, de vécu de cette fonction qui est naturelle en l'homme. Mais il faut s'y préparer, il faut savoir. À l'école, je développais des sessions sur tous les aspects de la sexualité, de la reproduction à l'école. Je le faisais entre 13h et 14h avec l'autorisation des parents, parce que j'avais fait écrire par le proviseur une note d'information et de demande d'autorisation, et l'autorisation, bien sûr, du proviseur lui-même. À la sortie de 12h, une fois par semaine, j'animais ces sessions-là avec toutes les valeurs qui tournent autour. L'aspect physique, l'aspect physiologique, l'aspect, tous les aspects qui sont liés aux maladies que l'on peut traîner avec. Si on n'est pas préparé, si on ne sait pas comment se protéger. L'idéal, bien sûr, est de leur montrer qu'il y a une façon de se comporter pour ne pas risquer sa vie, pour ne pas risquer son avenir en termes de, d'intégration sociale. Le message que je vais adresser aux décideurs est le suivant. En fait, il y en a deux. Le premier est que l'on organise mieux cette éducation à la santé de la reproduction dans les écoles. Les contenus existent, mais comment le faire? Il y a, nous, dans notre expérience, la méthode Scout que nous appliquons. Ça, c'est une chose, faciliter la mise en œuvre des contenus, des programmes. Surtout qu'aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué du point de vue scientifique, du point de vue technologique pour préparer une session d'animation, ainsi de suite. Le deuxième message que je vais adresser aux décideurs, c'est de comprendre que nous avons, dans l'éducation du jeune, à répondre à trois besoins essentiels. Le premier est un besoin matériel, il est vrai. Manger, se déplacer, se loger, se soigner, ainsi de suite. Le deuxième besoin, il est affectif, communicationnel. Le troisième, il est spirituel. Et moi, je placerai la chose, disons la santé, les questions de la santé reproductive aux deux derniers niveaux. En termes de communication entre adultes et jeunes, entre adultes et jeunes à l'école, entre jeunes et adultes dans la famille, les décideurs doivent aider l'école, la famille, les associations à mettre l'accent sur ce respect de la dignité du corps. Et pour cela, il faudrait effectivement qu'il y ait un ensemble de mesures pour pouvoir donc aller vers ce développement et le maintien de la santé reproductive des jeunes.
Chers auditeurs et auditrices, vous pouvez retrouver plus de champions engagés dans ce domaine à travers toute la sous-région sur le site generationpf.equipop.org. Nous sommes à la fin de notre émission. Ensemble, faisons entendre la voix des jeunes et notre thème du jour porté sur l'éducation sexuelle à l'école. Pour bien entrer dans l'âge adulte, les jeunes ont besoin d'être informés et d'avoir les connaissances et compétences qui leur permettront de faire des choix responsables concernant leur vie sociale et sexuelle. L'école a un rôle capital à jouer pour leur donner accès à une éducation en matière de santé sexuelle et reproductive. Mais il y a encore beaucoup d'obstacles. La route est longue. Le combat est juste. Ne baissons pas les bras et ensemble, choisissons l'avenir. Merci et à très bientôt.